Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin rencontre quelqu'un aussi bien capable de nous raconter sa propre histoire que celle de personnes importantes dans notre milieu, François Mercier.
Aujourd'hui, je suis très content. Je suis avec quelqu'un que je connais peu, mais qui a l'air très loquace, qui a l'air d'avoir plusieurs choses à raconter. Donc, on va prendre le temps de se parler, de se raconter les choses. Je pense qu'on va peut-être même avoir des petites notions d'histoire, si je me fie à la pré-entrevue qu'on a eue au téléphone. Certains d'entre vous le connaissez sûrement. Il s'appelle François Mercier. Tout d'abord, bonjour François.
Salut, bonjour Martin.
Et merci d'accepter de faire le projet à ton tour. C'est très,
ça me fait plaisir.
Très apprécié et je pense qu'on va apprendre encore une fois plein de choses. Donc, on s'en parlait. Moi, j'aime ça faire les choses de façon un peu chronologique. Et je pense que c'est pas un secret non plus de dire environ quel âge tu as, vers quelle année tu es né.
Ben moi, je suis du 5 mai 66 exactement, toujours à 54, c'est pas des farces. Surtout de penser que le premier ministre du Canada et la mairesse de Montréal sont plus jeunes que moi, là. Oui, oui. À ce temps-là, on réalise que on vieillit.
Que le temps file.
On passe vite. Tu sais, souvent, on va dire, le temps passe vite. C'est à Yvon Deschamps qui disait dans un de ses monologues, et c'est nous autres qui passent vite. C'est vrai, plus ça va, plus le temps passe vite.
Effectivement, moi aussi, je suis rendu à cette étape-là de ma vie, de trouver ça. Je me rappelle quand mes parents ont eu 40 ans, puis maintenant, c'est moi qui les ai. Alors, né à quel endroit exactement?
OK. Moi, je suis né dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve de Montréal.
OK.
Oui, on est... Mes parents se sont mariés en 65 dans ce secteur-là. On est resté jusqu'en 68. Ensuite, on est déménagé à Repentigny, dans le nord-est, en banlieue nord-est de Montréal. C'est la porte d'entrée de la Naudière. J'ai passé toute mon enfance là, en fait, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis, une très belle enfance. Mon père était, de son métier d'origine, opticien, parce qu'il y en a eu plusieurs.
OK, donc un lien avec les yeux.
Oui, il fallait bien qu'il y ait un fils qui soit aveugle. Et vraiment, là, il s'attendait surtout pas à ça. Et puis, en passant, le fait, ma cécité, là, c'est pas génétique, là. Du tout.
Ça venait dans mes prochaines questions.
C'est un accident de parcours.
OK.
C'est un accident de parcours. En fait, je suis né prématuré.
OK.
6 mois et demi.
Quand même.
J'essaie de sortir. Il faut le dire. Je pesais 1,5 livre à naissance. J'ai descendu même à 3/4 livre 3 semaines après. Il y a juste ma mère qui croyait en ma survie. Ça, là, c'est pas des blagues, là. Même le médecin était sûr que j'étais pour y passer. Finalement, j'ai survécu. Et puis, c'est ça. Disons que j'ai eu un peu de vision tout petit, là, jusqu'à l'âge de 7 ans. En fait, jusqu'au 12 mars 1974.
Oh, on a même la date exacte.
Écoute, ça, c'est bien triste, là, mais des événements semblables, ça ne s'oublie pas. J'ai pas vu beaucoup, mais par contre, je me souviens très bien de ce que j'ai vu. J'ai vu environ, je peux dire, là, en moyenne, 7%. C'était une vision tunnel. Autrement dit, je voyais pas en périphérie. Je me souviens très bien de l'environnement dans lequel j'ai vécu. Pour ça, il n'y a aucun problème, les couleurs, tout ça. Ma vision est instable. Elle pouvait monter, parfois descendre. Le plus haut que ça a monté, c'est même 15%. Et c'est peu de temps avant que je perde complètement la vue que c'est arrivé. J'étais suivi par l'hôpital Montréal Children. Et puis, c'est un décollement de rétine qui a causé... ma perte de vision complète. En fait, c'est ça, c'est qu'à la naissance, là, dans l'incubateur, c'est un surplus de luminosité et d'oxygène qui a atteint le nerf optique.
Et ça, on a entendu ça souvent quand même, oui. Là, des gens qui...
À cette époque-là, puis encore même pendant plusieurs années, là, parce que si j'étais né aujourd'hui, je serais comme les autres.
C'est ça.
Il n'y aurait pas eu de problème en tant que tel.
Pas cette problématique-là.
Non. Bon, ça aurait pu être autre chose, mais pas ça. Et puis les autres séquelles, parce qu'il m'a, il y a eu quelques autres séquelles liées à ça. J'ai un léger problème d'audition au niveau de l'oreille gauche, qui est de 20, j'entends 25% de moins. L'oreille droite est normale. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter cette condition-là.
La condition
de
auditive.
Vivre avec la condition de l'audition.
OK.
Ben, écoute, pour ce qui est de la vision, du peu de vision que j'avais, pour moi, là, c'était comme, ben, tu sais, t'es tout petit, là, t'es kid, là.
Ouais.
Je jouais, ouais. Mais, tu sais, là, je sortais, moi, puis je voulais toujours aller, j'étais très curieux, aller voir tout ce qui se passait. Je restais dans un secteur, en développement. Fait qu'il y avait beaucoup d'endroits, là, qui se bâtissaient. Fait que moi, j'allais partout où il y avait de la construction. J'avais à l'âge de 5 ans, 6 ans à peu près, et puis combien de fois qu'il y avait des gens, que ce soit des voisins, des contracteurs qui me ramenaient chez moi. « Hey, votre fils, là, il est encore sur notre terrain, c'est dangereux. Ouais, » là, ben, vu que je ne voyais pas beaucoup, je voulais être proche pour voir ce qui se passait,
ben oui,
ce qu'il faisait.
Se rapprocher.
Puis, alors, disons que, tu sais, il y a des fois, je repense à tout ça. OK, j'ai perdu la vue, mais je pense que... Je veux pas dire que c'est aussi bien que ça soit ça, mais j'aurais été pas mal casse-cou si j'avais gardé ma vision, si j'avais eu la vision. Parce que je voulais toujours, j'étais toujours à 300 000 à l'heure.
Curieux,
tout
puis...
Tout le temps. Alors, oui, je voulais tout voir. Et puis, j'ai toujours, évidemment, j'adorais tout ce qui était automobile, véhicule, transport, j'adorais les voyages. Puis mon père qui avait des livres d'auto, de bateau, tout ce qui s'apparente à ça, moi je passais mon temps à feuilleter ça. Et puis c'était un grand, grand plaisir. Ça a été un gros choc. Quand j'ai perdu la vue, là, de perdre ça.
De ne plus pouvoir feuilleter des livres. Puis, ouais.
Ouais. J'adorais la photographie aussi. Contempler des photos, des tableaux aussi. Ça a peut-être l'air fou à dire, mais... Tu sais, il y a bien des gens qui disent, il y en a des cartes, il y a beaucoup de cartes chez toi, des tableaux. Pourtant, tu vois pas. Mais pour moi, ça a une importance capitale. Ça donne de l'âme à la demeure où tu te trouves.
L'important, c'est rester, puis de pas avoir tous des murs blancs
non,
ou
surtout
avec.
Surtout pas.
C'est ça, c'est demeurer important.
Fait que moi, ben, c'est ça. Évidemment, cinq ans, là, ma mère voulait m'envoyer à maternelle. Et puis, non, la professeure ne voulait pas me prendre sous prétexte que j'avais pas assez de vision. C'est-à-dire que j'ai passé l'année à la maison. Et puis, c'est là que, finalement, on est allé faire un petit tour à Montréal, chez les Sœurs Grises, à Nazareth.
Mm-hmm.
Je suis entré là en 72. Et puis, j'ai été chanceux. Chanceux dans le sens que c'est la première année où on pouvait sortir à tous les fins de semaine.
Ah oui,
pour
parce
ceux
que...
qui restaient relativement proches ou assez proches. Quand j'ai assez relativement proche, j'allais une distance de jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie.
De route, là, de transport.
De route, exactement.
OK.
Parce que sinon, c'était plus, pour la plupart, il y en avait beaucoup qui passaient leur fin de semaine là-bas. C'est... Je pense que je t'ai parlé aux places.
Donc, c'était la première année qui avait commencé à permettre ça?
Oui, parce okay. qu'avant ça, je sais qu'en 71, il y a des gens là, qui je suis proche là, qui sont arrivés avant ça, ils me disaient ça. 71, c'était à toutes les 2 semaines. Avant ça, c'était à tous les mois.
Et ça, même si tu restais très proche, là, il y en a qui restaient à Longueuil.
Oh, là, il y en a eu quelques exceptions qui pouvaient là, voyager soir et matin, mais matin et soir, mais c'était rare. Ça n'arrivait pas souvent.
OK.
Fait que j'étais à Nazareth 3 ans. Là, évidemment, par la suite, il y a eu la fusion. Ça, il y en a d'autres qui t'en ont parlé.
Oui.
Nazareth annexé avec l'ouvrage. Moi, j'étais externe à partir de 81. On est déménagé à Montréal en 81.
Donc là, il n'y a pas eu une trop grosse coupure non plus, vu que, bon, ça te demandait d'aller à l'école plus loin, mais pas de demeurer
ben,
sur place.
Évidemment, c'était pas facile. La première année, surtout, là, de partir de chez moi, là, soit le dimanche soir ou le lundi matin pour toute la semaine, c'était pas toujours facile. Mais je m'y suis fait là à partir de, je te dirais, 1 an, 2 ans après. C'était toujours un plaisir de retrouver
la gang, là,
les amis, tout ça. Là,
l'aspect social là, qui
l'aspect
est embarqué.
Social. Ah, oui,
puis...
oui, ça, là, c'est, pour ça, là, c'était...
Ça a pris son importance. Puis,
oui. Oh,
OK.
Oui.
Donc puis, là, je t'ai coupé parce que bon.
Non, non, c'est correct, okay. Pas de problème. Mais je peux te dire par contre que en 74, quand j'ai perdu la vue, là, ça a été une période plus sombre.
OK.
Évidemment, ce qui est tout à fait normal. Mais il n'y a pas personne qui va le vivre au même degré.
C'est sûr.
Évidemment, il y a eu la période où le découragement, puis après ça, ça a été la frustration, t'en veux à la terre entière. Et puis ça m'a pris, je dirais, là, au moins 4 ans comme faut, là, ou 4 ou 5 ans avant de commencer à me résigner, à être un petit peu plus stable ou relax, tu sais, avoir un peu plus de positif dans ma vie. C'est ça. Disons que.
Sinon, t'as, pendant ces années-là, on fait ce qu'on a à faire, point, sans trop de dynamisme. C'est quoi qui.
Ben, disons que l'année après, je te dirais 74, ouais, c'est ça, la première année après que j'ai perdu la vue, là, OK, je faisais ce que j'avais à faire. C'était pas pire, mais c'est par après que la révolte, vraiment, là, a sorti, là, parce que je l'ai eu pendant au moins 3 ans, 2-3 ans, comme il faut. J'ai même redoublé une année là, par rapport à ça. Puis après ça, ben, tu sais, mettons qu'on n'a comme pas le choix.
C'est quoi qui fait que, ouais, qu'un jour on se dit, bon, là...
Ben, ça donne rien de choquer après les autres. Ça donne rien de toujours être en maudit puis d'en vouloir à la terre entière.
C'est ça, après
faut
les autres.
Faut que tu vives avec ça pour le restant de tes jours.
C'est ça.
Hein? Fait qu'il faut que tu avances, faut que tu regardes en avant autant que possible.
Mais parlons de l'école un peu, l'apprentissage. Toi, tu as appris le braille, j'imagine.
Oui,
t'as appris,
oui, oui. Mais ouais. Je m'en sers pas vraiment beaucoup, je veux dire, plus maintenant. Là. Mm-hmm. Surtout, je vais être honnête, le braille numérique à 8 points, là. Alors, je peux le lire, là. Je peux être capable de lire. Là. Ça demande plus de concentration. Là. C'est le braille qu'on apprend, qu'on utilise en ordinateur.
La plage tactile, puis tout ça.
C'est ça. Mm-hmm. Moi, je vais préférer l'autre braille. Je suis peut-être un dinosaure, là. Mais non, je suis habitué à utiliser les synthèses vocales, les voice-overs, que ce soit avec l'ordinateur pour le jazz ou que ce soit pour l'iPhone. Mais j'ai aucun problème. Ça okay. va très, très bien. Je me débrouille très bien de ce côté-là.
Mais du temps de l'école, au moment où ça a été le moment...
Non, c'était toujours du braille.
C'est ça.
J'ai appris un peu l'écriture conventionnelle à la base, là, comme au tout début, mais c'est le braille que j'ai toujours utilisé.
Okay.
Tout le temps.
OK.
Ma matière faible, là, je pourrais te dire, dans l'ensemble, ça allait assez bien. Mais c'est les mathématiques, moi, que j'avais
de
difficultés.
Un de plus, hein?
c'est pour ça, le calcul mental, la base au niveau des mathématiques, pas de problème. Mais tout ce qui est algèbre, géométrie, je détestais ça. Les sciences, chimie, physique, j'ai jamais touché à ça. Mais par contre, pour ce qui est de l'histoire, la géographie, ça, j'ai toujours adoré. Oh, il y a eu un temps, comme tout le monde, on est jeune, on est fou un peu, on se préoccupe pas tellement de nos études, mais je me suis repris plus tard. Alors, j'ai repris des cours pour me perfectionner quand j'étais au cégep. L'histoire du Canada et du Québec, l'histoire des relations internationales à partir des années 1850 à nos jours, et puis aussi l'histoire des États-Unis. Mettons, je regarde ça aujourd'hui, là, puis c'est un vrai freak show. C'est pas dans la bonne direction, mais pas du tout.
Et est-ce qu'on s'attendait à ça?
pour l'instant, là, je veux dire, ben, à ce moment-là, non. Non, pas aller jusqu'à maintenant, là, ça a aucun sens. En partie, ça fait peur. En tout cas, mais là, on s'éloigne un petit peu.
Oui, mais on pourra y revenir.
Oui, oui, oui.
Donc, matière faible, les mathématiques.
Oui, oui, oui.
Matière
oui,
forte, bon, histoire, j'imagine, français.
Oui, géographie, surtout, ouais. L'histoire. La musique, j'ai toujours aimé ça aussi. Ben, j'en suis un maniaque. J'aime en écouter beaucoup, beaucoup. J'aime chanter pour mon plaisir.
OK.
Je suis pas un professionnel, mais je le fais pour m'amuser.
Mais à l'école, ils vous faisaient jouer des instruments?
Surtout du piano.
Ou du piano?
Soit du piano,
okay.
Ou aussi des instruments avant qu'ils pouvaient avoir, ou de la guitare. Quoique les profs, en général, la guitare n'était pas toujours pour ça, à cause du
ça
fait que
les
si
doigts.
Tu joues de la guitare, c'est moins bon pour tes doigts pour lire le braille. Mais moi, j'ai pas appris la guitare. Moi, c'était le piano, puis ensuite, ça a été la clarinette. que j'ai
joué la clarinette.
Plusieurs
okay.
années. Oui.
OK, d'accord.
Oui, j'aimais ça, c'était bien. Ah. J'ai eu la trompette que j'ai essayée, mais j'ai joué plus longtemps la clarinette après.
OK. Est-ce que tu faisais du sport?
Quand on était pensionnaire, on jouait au hockey à l'intérieur. Là. Il y avait le hockey, il y avait aussi le baseball avec un ballon, évidemment, parce que le fait qu'on était aveugle, on jouait avec un ballon. Et puis, moi, je suis pas le plus grand des sportifs, mais évidemment, on a joué aussi au goalball, c'est sûr.
OK.
J'ai joué pendant quelques années pour le plaisir. C'était pas nécessairement pour les compétitions, mais je faisais ça pour avoir du fun, m'amuser.
Oui, puis vous aviez du temps quand même à combler, à occuper.
Oui, oui, oui. Oui. Uh-huh. On l'a appris, le goalball, c'était ça. J'ai commencé à jouer à ça vers l'âge de 11 ans, en 77. Ouais, c'est en plein ça. Puis le baseball, j'ai commencé à le suivre en 74-75. J'ai commencé à vraiment le suivre, là, c'était en radio. Le soir, je m'endormais avec le baseball.
Puis la radio, ça avait quand même quelque chose d'important, là, souvent pour les personnes...
Ben, ça dépend pour qui. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On écoutait beaucoup la radio chez nous. Comme la télévision aussi, là, mais la radio prenait une grande place. Puis j'ai grandi beaucoup, beaucoup avec ce qu'on peut dire, là, les Jean-Pierre Coilier, Jean Proulx, c'était les grands annonceurs, les animateurs assez... qui avaient une grande prestance, qui était extraordinaire.
Des voix.
Duré longtemps. Ah mm-hmm. Oh, oui, c'est sûr. C'est officiel. Mais...
Le baseball à la radio.
Le baseball à la radio, oui, bien, quand... OK, on le jouait quand j'étais pensionnaire, on jouait ça. On avait beaucoup de plaisir. Mais moi, je voulais connaître les joueurs des expos. Et puis, avec un commentateur comme Jacques Doucet, c'est tu ne pouvais pas mieux que ça pour pouvoir suivre l'action. J'ai eu la piqûre du baseball vraiment à partir de l'âge de 9 ans.
OK.
À peu près. Puis, j'ai toujours suivi du temps que les expos ont existé. Puis, mettons que je souhaite ardemment qu'il puisse revenir à Montréal. Ça va prendre encore une couple d'années avant que ça arrive.
Ça serait bien quand même.
Oui, oui, oui. Hein? Mais moi, je suis un amoureux du baseball. Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est pas compliqué. Il y a bien des gens qui, en général, vont être des amoureux du hockey. Ils vont suivre le baseball. Si on a un club là, à Montréal, là, au baseball, ils vont le suivre à condition que ce soit gagnant.
Ouais.
Mais moi, c'est le contraire. Le hockey, je le suis pas. À moins que le club... Le Canadien soit gagnant. Là, je vais le suivre. Mais en série, je vais suivre un peu, mais à part
quand
ça.
Quand ils sont perdants, c'est pas loin qu'ils ont des critiques. Puis
non, mais c'est pas juste par rapport à ça, c'est parce que ça m'intéresse pas.
Non.
J'aime mieux le baseball que le hockey, moi.
Une autre dynamique, hein, quand même, là.
Ben, c'est un sport de stratégie. Il y en a qui trouvent ça bien ennuyant, mais tu as tellement de façons inimaginables pour marquer des points. C'est un sport de stratégie. C'est en partie un sport intellectuel. Puis évidemment, tu sais, les sports d'action comme le football ou soccer ou hockey, ça, c'est vraiment des sports d'action, comme le basketball aussi. Moi, j'aime ça, là, mais pas ça. Hockey, je peux aimer ça, mais les autres, je suis pas ça.
Mais c'est vraiment
le baseball, moi, okay. Ce qui me concerne, oui, c'est ça.
Puis le baseball de l'époque à la radio, puis...
Oui, ben écoute, la première à l'époque des expos, c'est de 79 à 83, avec Dawson, Carter, Steve Rogers, Tim Raines, les gros noms là, du temps. Scott Sanderson, Charlie Lee. Enfin, tous mes clubs, là, je vais arrêter cela. Puis après ça, ben, on s'en souvient, Walker, Martinez, Pedro, Marquis Grissom, Vladimir Guerrero, c'est un de mes préférés. Et d'ailleurs, je fais partie d'un groupe Miss Montreal Expos sur Facebook.
OK.
On se partage plein de photos, puis c'est toujours agréable. C'est vraiment là... On partage notre passion. J'ai un dossier, d'ailleurs, sur l'histoire, les archives, l'histoire des expos de Montréal dans mes archives personnelles, parce que je suis un archiviste de nature. Ah oui? Ah oui, j'ai beaucoup, beaucoup de... C'est un de mes hobbies. Moi, je vais télécharger beaucoup de choses sur plein de... Au niveau, là, que ce soit au niveau sonore, là, ça peut être des documentaires, ça peut être des entrevues, des biographies. Au niveau musical aussi, ça fait des téléséries, des films, à tout point de vue.
Tout là, ce qui a un lien, là.
Oui, oui, oui. Okay. Ah, oui, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça...
c'est quand même intéressant, c'est quelque chose.
Oui.
Il y a une question que j'ai oublié de te poser plus dans le début. Est-ce que tu as des frères et sœurs, toi?
J'ai une sœur.
OK.
Puis elle, dans le domaine de la coiffure.
OK.
Coiffure styliste. Et puis elle a aussi des talents d'artiste peintre, dessinatrice. Et puis, alors, elle gagne bien sa vie. Elle a deux beaux enfants. Elle a une nièce. Ah, t'as déjà une nièce, c'est ça. Alors, ma nièce, elle va avoir 18 ans. En janvier. Et puis, Ricardo, lui, va avoir 16 ans. Le temps passe tellement vite.
C'est là qu'on voit, hein, quand il y a des neveux et nièces qui arrivent, là.
Oui.
Qu'on a pris dans
J'aurais
nos bras.
J'aurais tellement aimé en avoir, moi-même, là, des enfants.
Ah, uh-huh.
Qu'est-ce que tu veux? Là, ça s'est pas présenté.
Ça
en
s'est
fait,
pas
la
présenté.
Majorité des femmes que j'ai eues dans ma vie, ont été plus âgées. J'en ai eu une qui était plus jeune, mais qui a viré au fiasco. Que ça a pas vraiment,
ben, on va y revenir aussi.
On contrôle
à ça.
Pas ça. En fait.
Parce qu'avant, moi, je veux savoir, quand on quitte là, l'école adaptée, là, qu'est-ce qui se passe pour toi?
Ben moi, je suis parti en juin 84. Je pense que c'est la dernière année que ça s'appelait Nazareth ou Braille. L'école.
On en parlait au téléphone la semaine passée.
Il semble,
puis oui. Pas long. En tout cas, c'est oui, je pense bien
parce
moi aussi. Parce que j'y
chance.
Étais moi aussi là, rendu là.
Toi, t'es rentré à quelle année?
83.
OK. Bon, ouais, donc, tu vois, là, je suis parti en juin 84. J'ai étudié au Cégep de Rosemont. J'étais en sciences humaines. J'ai étudié en histoire, puis aussi en politique. J'étais là un an. Mais mettons qu'à ce moment-là, là, j'étais. C'était le temps des folies de jeunesse, là. J'étais sur le party pas mal, puis tout ça. Mais après ça, j'ai pris un cours en communication dans le domaine de la radio. C'était un cours organisé avec l'INCA, en collaboration avec l'INCA.
OK.
Et puis ça, j'ai fait ça au Cégep du Vieux-Montréal, c'était en 85. J'ai un petit peu plus tard, j'ai suivi ça, ça a duré 6 mois. Et puis...
Là, c'était dans le but de faire une carrière à la radio? Ou...
Ben, j'aurais voulu... Oui, c'était un but que je caressais. C'était un rêve que je caressais. Il y a des gens que... Il y a des personnes que j'ai connues dans ce domaine-là. Et puis, j'ai vu rapidement, j'ai compris que c'était une jungle. C'était pas évident.
Mais, de percer, là? De
percer, là, mm-hmm. dans ce domaine-là. Et puis... J'ai envoyé des CV, des démos, tout ça, pendant des années. Je suis accolé à ce milieu-là pendant des années. Jusqu'en 80, je te dirais, là, 91, 92.
OK.
Mais j'aurais peut-être dû persévérer davantage. Mais quand même, en tout cas, j'ai essayé quand même assez longtemps.
Avec les efforts que tu as faits, ça n'a pas...
Ben, j'ai fait de la radio communautaire à deux places. J'étais... ensuite, je suis allé à Québec, à 98.9, Chic, 98.9, qui est devenu Énergie. En fait, c'est les mêmes lettres d'appel, mais disons que c'est pas... Le format a changé. À partir de 90, j'ai été opérateur à la mise en onde. J'étais là la nuit, durant la semaine. J'étais là pendant 4 mois. Et puis là, c'est à ce moment... Quand je suis parti, moi, ils faisaient une grosse restructuration complète du format, de la programmation. Ça, on était en 88, là. J'ai fait du télémarketing par la suite. Ça, là, c'est un job qui est pas facile.
Et là, ça, je peux en témoigner, j'en ai fait, moi aussi.
Ah oui, hein? Surtout quand il s'agit de vendre des préarrangements funéraires. J'ai fait ça pendant 3 mois. Ça n'a pas donné grand résultat positif. J'étais découragé des bouts. Et puis, je me suis repris à faire du télémarketing beaucoup... au début des années 2000, mon père s'est réessayé, il voulait m'approcher pour aller à la compagnie où il travaillait. Il était vendeur. Il vendait des systèmes de chauffage, climatiseurs.
OK, donc il avait changé de...
Ah oui, à plusieurs reprises. Il a changé de domaine à plusieurs reprises. Oui. Et puis, moi, ben c'est ça, il m'avait approché pour aller faire du télémarketing-là. J'ai été là pendant 4 mois, encore une fois, de septembre à décembre. Et puis là, après ça, là c'est assez. Je l'ai eu, ma claque, là. Donc, mais, entre-temps, il y a eu d'autres choses qui ont changé ma vie. En 80, parce que ça faisait, durant les années 80, quand j'ai quitté Nazareth-Louis-Braille, quand j'ai fini le secondaire, moi, je pensais à avoir un chien guide. Je commençais à y penser.
Oui.
Et puis, je faisais partie de l'équipe de goalball avec l'Association des sports provinciaux de Montréal. J'allais là à chaque fin de semaine, chaque samedi matin. Il y avait quelqu'un qui avait un chien guide qui était là. Et puis, j'ai demandé, « Penses-tu que je pourrais essayer ton chien? » Il dit, « OK. » C'était lui qui donnait des commandements à son chien. C'était pas un chien de Mira, là. C'était un chien qui provenait des États-Unis.
OK.
Alors, mais c'est le feeling que ça fait quand tu l'essayes pour la première fois.
Oui.
Parce que moi qui étais à la cage, j'avais un bon pas, je marchais très vite. Et puis là, c'est le chien qui me guide. Et là, c'est l'incertitude parce que là, il guide, il marche vite, lui là.
Puis il faut que t'aies confiance, ben oui.
Il faut que t'aies confiance au chien. Tu fonces pas nulle part. Tu fonces pas nulle part du tout, du tout. Il te conduit, là, mais il marche vite, il marche d'un bon pas, là. Il marche au même pas que moi, mais moi, là, finalement, il m'amène jusqu'au trottoir. Mais j'étais en même temps fasciné de voir qu'au rythme où il allait, il me faisait pas rentrer nulle part. Hey, je trouvais ça fascinant. Puis après ça, ben j'avais appelé Hélène Guérette, qui était représentante, qui représentait l'Institut en mobilité, qui était associée avec Mira, pour les classes de chien guide, en fait, là. Et puis on a eu une bonne discussion là-dessus. Puis en 86, c'est là que j'ai donné vraiment, là, j'ai fait ma demande. Et puis j'ai eu mon premier chien guide en novembre de la même année, en 86.
Donc le 86, tu avais 20 ans là, à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
Okay.
C'est à ce moment-là que j'ai eu mon premier chien guide.
Et là, ça change quoi dans la vie là d'avoir un chien guide comme ça?
Ben, disons qu'il y a plusieurs choses qui sont passées cette année-là, en fait.
Comme ça a été une grosse année?
Oui, parce que mon père dit, ouais, tu commences à avoir, après la classe de chien guide, on arrive aux fêtes, il dit, bon, hey, tu commences à avoir une vie bien structurée. Oui, il dit, t'as une blonde, t'as un job, t'as un chien guide, parle-moi de ça. C'est que il y a eu un certain temps où ça a été un peu plus difficile, si je recule, d'environ un an, en 85. Après le cours en radio, j'essaie de me trouver quelque chose, ça marche pas. J'entends parler d'un programme où je peux avoir la chance d'être transcripteur braille.
Ah, OK. Là, c'est un milieu que je connais, ça aussi.
Oui, ben oui, toi, tu es avec Point par Point, tu
oui.
me parlais. Hein?
Mm-hmm.
Oui, c'est ça.
Mm-hmm. Ben, depuis 15 ans.
J'ai rencontré d'ailleurs M. Gérard Cécile, je l'ai vu à quelques reprises, durant ma première classe de chien guide. Il venait en haut à l'époque.
Oui, il a commencé là à faire de la transcription.
Oui, exactement, ben, c'est là que je l'ai rencontré.
Oui.
Enfin, j'y reviendrai. Donc là, c'est ça. Là, cet emploi-là que j'avais, c'était pour l'association régionale des loisirs, de sport et loisirs de l'île de Montréal. Moi, autrement dit, je transcrivais tous les documents qui existaient qui représentaient les organismes et associations pour personnes handicapées, que ce soit.
OK.
Personne en fauteuil, personne sourde.
Tout handicap confondu.
Tout handicap confondu, c'était en plein ça.
OK.
Moi, je transcrivais tout ça en braille pour tout le monde. J'ai fait ça pendant un an.
Et là, la transcription, dans ce temps-là, ça se faisait-tu au brailler, là? Ça se
oui,
faisait...
exactement.
Ouais. Okay.
Oui, c'était au dactylo braille. Je faisais ça. Il y a quelqu'un qui me lisait des documents sur cassette, sur le bon vieux magnétophone GE.
Le GE, ben oui.
Ouais. Et puis...
Toi, tu recopiais ça sur la cassette.
Hey,
sur
la machine écrite. Aujourd'hui, les gens là, qui sont avec leur iPhone, leur ordinateur là. À l'école, tout ça, quand on a eu, en secondaire 2, secondaire 3, on se ramasse avec nos magnétophones GE, avec une calculatrice, hey, on était-tu assez contents? Je regarde aujourd'hui les jeunes, nous autres, ce qu'on avait, c'était rien à côté.
Ben, il y avait, c'est parce qu'il y a eu tout le temps une progression.
Oui, c'est sûr.
C'est sûr que c'était intéressant.
C'est voir l'évolution, comment est-ce que c'est.
C'est ça, mais tabarouette, refaire mes études avec la technologie d'aujourd'hui, je ferais ça les doigts dans le nez, là.
Ça me semble tout un coup de main. C'est sûr que ça aide grandement. Fait que j'ai été là au mois de... je pense que c'était à partir du mois d'octobre. C'était à Montréal, là, dans l'ouest, là. Pas tellement loin du métro. C'était sa rue, à l'époque, ça, c'était la rue Dorchester.
Ah, OK. Boulevard
René-Lévesque. C'était le coin de Saint-Mathieu. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et puis, moi, j'ai commencé vraiment à partir de janvier 87. Parce que j'ai eu ma classe de chien guide. Et puis, c'est là, j'étais là, moi, jusqu'à la fin 87. Et c'était très bien. Là, après ça, ben, la Fondation Mira m'a demandé de participer à des conférences de presse pour leur campagne de souscription. Ils ont approché plusieurs bénéficiaires. Et ils étaient à la recherche de bénéficiaires pour faire des campagnes comme telles de souscription, du bénévolat. Et puis, c'est là qu'il y a une représentante qui m'appelle. On a besoin de toi pour remplacer quelqu'un. Puis je suis allé. Et puis, je parlais pas beaucoup. J'étais gêné.
Ah oui, tu étais du type gêné.
Ben, pour la première journée que j'ai faite.
OK.
Mais après ça, ça a changé. Et puis ensuite, ben là, on m'a appelé pour Québec en janvier 88. Là, ça a déboulé. Les campagnes pour Québec. En même temps, je faisais plusieurs nuits à la station de radio comme opérateur à mise en onde en 88. C'est dans le même temps.
Ah oui, ça se poursuivait.
Je faisais aussi
là.
Des levées de fonds en même temps.
OK.
Puis après ça, ça a été le télémarketing pour Magnus Poirier. C'est la compagnie pour laquelle j'étais.
Oui, de funéraire,
ouais.
Là.
Oui, c'est ça. J'y suis retourné après, vers fin 88, pour Mira. J'ai voulu retourner aux études par après, en 89. Encore dans le domaine de l'histoire, des sciences humaines, de la politique aussi. J'ai fait ça jusqu'en 90. Et puis, par après, ben, j'ai tout en tentant d'envoyer des CV, des démos pour les stations du Québec, un peu partout. Puis, ça donnait pas vraiment grand-chose de ce côté-là. Mais je me suis investi beaucoup pour Mira par la suite. Partout à travers le Québec, j'en ai fait des levées de fonds.
Parce que c'est ça vous demandait de vous déplacer, là,
oui,
partout.
Oui, on était des valises, des hôtels, un peu partout. Le seul coin, je te dirais, que j'ai pas fait, là, c'est le Saguenay.
Hein?
Je suis allé au Lac-Saint-Jean, mais je suis pas allé faire des campagnes au Saguenay. Mais je suis allé un peu partout à travers le Québec, là. Puis, vraiment, c'était vraiment très, très bien.
Ça fait voir du pays, ça fait voir de...
Oh, oui, tu vois du pays, tu vois, évidemment, t'es avec le public, et puis ça permet de sensibiliser les gens, non seulement sur la cause de Mira, mais aussi tout en ce qui nous concerne, au niveau de la cécité.
C'est ça, là.
Nos vies en général. Il y a bien des gens qui me disent, t'es pas tanné de parler de ça tout le temps, moi ça me dérange pas. Plus on en parle, plus on sensibilise les gens, mieux c'est. Ça, là, c'est sûr et certain.
Puis ça prend, je pense, des gens qui se lassent pas d'en parler, de répéter, d'expliquer des fois mieux quelque chose qui nous paraît simple. Puis,
ouais. Puis il n'y a pas de questions qui sont stupides.
C'est ça qu'il faut toujours dire aussi, hein?
Absolument.
Toute question mérite une réponse.
Oui, ça c'est sûr. Et ensuite, en 93-94, j'ai suivi quelques cours en massothérapie. Il y a plusieurs personnes qui m'en parlaient. Peut-être tu devrais essayer. J'avais essayé. Ça coûtait très cher. Et puis, j'ai mis ça en veilleuse pendant un certain temps. Et là, ensuite, en 96-90, là, on a commencé à aller faire des campagnes au Nouveau-Brunswick pour la Fondation Mira, Mira Atlantique. Et en 97, je suis allé faire une campagne à Saint-Jean. Et puis, évidemment, tu sais, ça a l'air de rien, hein? Mais le fait qu'on ait un chien, évidemment, ça nous permet aussi de rencontrer beaucoup de monde. Je te
oui.
dis pas qu'on n'en rencontre pas sans chien. Mais attendre un autobus avec une canne par rapport à quand un chien, évidemment, ça va.
C'est pas la même chose.
C'est une façon plus facile de faire, évidemment, de faire avoir une conversation puis de connaître des gens. Et puis, ça a été le cas dans bien des circonstances. Alors, évidemment, je me suis signé d'amitié avec beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens que j'ai connus, que j'ai rencontrés un peu partout. Et puis, ben, pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, ben, j'ai fait une campagne à Saint-Jean en octobre 97. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Valérie, qui était bénévole pour Mira Atlantique. Et puis là, ben, disons qu'on on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir plusieurs points en commun. Puis à ce moment-là, moi, je pensais beaucoup à tenter de faire ma vie ailleurs. Je me disais peut-être que je pourrais aller faire ma vie ailleurs.
C'était pas quelque chose qui te dérangeait de quitter
pas du tout.
Le coin ici?
Absolument pas. Moi, j'étais prêt à partir ailleurs où je le savais pas. Puis ça, c'était un peu avant, là. Mm-hmm. Parce que même, j'ai un cousin, moi, qui reste en Colombie-Britannique. Et puis, à un moment donné, je caressais le rêve d'aller vivre, là. Et puis, finalement, c'était un petit peu plus tard, là, j'ai rencontré Valérie. C'est pas en Colombie-Britannique que je suis allé, mais au Nouveau-Brunswick. Et puis, j'ai pris vraiment cette décision-là d'aller la rejoindre plus tard. On était pendant 2 ans ensemble. Puis, j'en garde un merveilleux souvenir. Elle est décédée suite à un anévrisme au cerveau. Et vraiment, là, ça a été une belle période de ma vie. C'était vraiment très, très bien. Ça, quand j'entends l'accent acadien, elle était d'origine anglophone, ou du moins irlandaise. Là.
OK.
Mais c'était un anglais. Elle parlait l'anglais, bien sûr. Là. Comprenait le français un peu. Elle avait de la misère un petit peu à le parler, mais moi, j'ai tenu vraiment là, à perfectionner mon anglais quand je suis arrivé là-bas. Et puis, mais par contre, je dois dire que j'en ai beaucoup perdu.
Mais tu dis perfectionner, donc tu avais déjà une bonne base.
Je me débrouillais. Je parlais un petit peu, pas beaucoup, là, mais je me débrouillais. Mais je suis devenu pas mal bilingue. Là. Tu sais, quand je... Tu sais, à force de le parler. Là.
Ouais,
au début, c'était pas facile, là. J'avais des mots de tête, là. Tu sais, des fois, tu... Mais quand je suis revenu ici, au Québec, parce que quand elle est décédée, là... Oh, parce que le coût de la vie, tu sais, je demeurais à Fredericton, la capitale du Nouveau-Brunswick.
Mm-hmm.
Le coût de la vie était plus cher là-bas. Les services adaptés, un peu moins élaborés qu'ici. Et puis là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Hey, quand je suis parti de... Parce que je restais à Longueuil, moi, en 98, en juin 98, quand je suis parti, je me disais, moi, là, dans ma tête, là, je m'en vais rester là pour le restant de mes jours.
OK, c'était aussi...
Là, c'était un rêve extraordinaire. Et là, quand elle est décédée, là, en octobre, c'était en 99, que c'est arrivé le 20 octobre, aïe, aïe. Ça fait dur en maudit. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas eu le choix de revenir. Pas vraiment, en tout cas. Ça s'est donné que mes parents, eux autres, étaient en Floride depuis plusieurs années. Ils ont décidé, eux autres aussi, de revenir au Québec.
OK.
On est revenus sensiblement durant la même période. Et puis, et ce qui est le plus drôle, là-dedans, parce qu'évidemment, j'étais en contact tout le temps avec les gens, mes amis, tout ça, de Longueuil, de Montréal... Et puis là, j'appelle tous ceux qui la connaissaient, qui y avaient déjà parlé, dans le bloc où je restais. Là, je parle avec un de mes chums, je dis, ouais, là, je me cherche un appartement, il faudrait que je revienne dans le coin de Montréal ou de Longueuil, s'il faut. On parle pendant environ 20 minutes, 25 minutes. Hey, il dit, d'un coup, j'y repasse. L'appartement que tu as vécu, le premier que tu as eu, c'était en 91. Moi, j'ai eu mon premier appartement à l'âge de 25 ans, en 91.
OK.
Il dit, je suis pas sûr, mais je pense qu'il serait libre. Il pourrait être alloué. Je dis, arrête-moi de voir ça, toi.
Reprendre le même appartement qu'elle
avait. Exactement. Puis, je dis, écoute, s'il est libre, séduis le rendez-vous avec le propriétaire. Il dit, appelle-moi dans 20 minutes, comme de fait. Le rendez-vous était cédulé. Et puis, une semaine après, je cédulais. J'avais un bail de signé avec mon père. Je reprenais le même appartement que j'avais pris. 7 ans. Attends, c'est pas vrai. En tout cas, c'est en 91 que j'ai eu ça, cet appartement-là, pendant 4 ans. Et puis, je suis revenu là en décembre 99.
Hey, c'est spécial, ça doit faire
c'est
drôle.
C'est quand tu passes la première nuit-là, là, mm-hmm. tu te lèves, là, aïe, aïe, le choc que ça fait. Tu sais, je me disais moi-même, c'est ici que je suis arrivé, j'ai eu mon premier appartement, je me relève ici. Quand je pensais vivre ma vie, le restant de mes jours, au Nouveau-Brunswick, je me retrouve dans la même place, c'était assez spécial. C'est là que, tu sais, tu as des plans, tu veux faire des choses, mais des fois, là, la vie se charge de faire tourner ça de bord.
En fait, on ne sait jamais ce qui nous réserve, hein?
Non. Mm-hmm. Mais j'ai été chanceux, par exemple, dans cette malchance-là. Là, évidemment, le deuil, ça a été assez lourd, assez dur, mais j'ai été très bien entouré. Au niveau de ma famille, de mes amis, tout ça.
Oui, puis c'est important. Là.
Ah oui, j'ai été très bien entouré. Ça, pour ça, là, ça a été très, très bien. Et puis, j'ai pu retrouver facilement la Fondation m'a appelé, puis il était prêt à me reprendre pour les campagnes de la région de Montréal, de Québec, tout ça. Et puis moi, ben c'est là, c'était après la première année, en 2000. Moi, je dis, je vais essayer de faire d'autres choses, de me réessayer. Puis là, mon père, il dit, essaye-toi en télémarketing, c'est ça que je t'avais parlé tantôt.
Oui, 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 oui.
Puis je dis, non, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai redonné de mon temps pour Mira un certain temps. Mais je dis, bon, je vais me réessayer à ma sous-thérapie. Et puis, il y a quelqu'un à qui j'en parlais. Ben, elle dit, écoute, il y a quelqu'un qui en donne un cours de massothérapie, tu peux le faire. Puis là, je pouvais prendre des arrangements avec le Centre local d'emploi, Emploi Québec.
Pour l'aspect financier, là, qui était plus difficile.
Oui, oui, exactement.
Tout ça,
ben,
là.
C'est ça, moi, qui
te boguait, là. Mm-hmm.
Et puis finalement, j'apprends qu'il pouvait avoir de la collaboration avec le Centre local d'emploi. Et puis, alors, j'ai suivi ma formation au Centre de massothérapie de Québec. Tu as sûrement entendu parler de ça. Pierre Saint-Onge,
ben oui,
qui dirigeait la formation.
Je lui ai parlé en fin de semaine. On est en train de concocter quelque chose. Là.
Ah, mais c'est bien. Ben écoute, tu salueras pour moi.
D'accord.
On est amis Facebook, d'ailleurs.
Oui.
Chic type. Très sympathique, belle fun. Puis on s'est bien amusé, en tout cas. Ça a vraiment été très, très bien. Puis c'est François Côté aussi qui était dirigeant aussi là, au niveau de la formation. Voir ce que tout aille bien et qu'on manque de rien comme tel. Là.
Et t'aimais ça? C'était...
Oui, c'était très bien. Mais pas, c'est de bâtir une clientèle, c'est ce qui est
bien. Ben ça, le bâtir une clientèle.
C'est pas facile.
dans n'importe quel domaine, c'est toujours.
Non,
comme
c'est sûr. À ce moment-là, je demeurais à l'extérieur de Montréal. J'étais pas à Longueuil, là. J'étais sur la rive nord.
OK.
Et puis, là, je m'achète une table de massage. Je me dis, bon, je vais essayer de trouver quelque chose après la formation. On est en 2002, en passant. Et puis, plus tard, on est à Laval. Mais Laval, c'est pas vraiment une ville conçue pour les personnes aveugles.
En tout cas, moi, j'aurais pas tendance beaucoup à aller rester là.
Non, mais c'est une de mes ex-conjointes qui demeurait, avec qui j'avais aménagé.
Une dame voyante? Ou...
Oui.
C'est
oui.
Ça, hein? OK. Oui.
Et puis, là, finalement, on est déménagé à Saint-Eustache. Bon, c'est plus facile, un peu plus facile d'accès. Le secteur où on est, ça va un peu mieux. J'ai essayé de me faire une certaine clientèle. Ça a plus ou moins fonctionné. C'est le temps où ça a marché le plus, c'est quand j'ai quitté Saint-Eustache, autrement dit, quand j'ai laissé cette femme-là, en 2005. Et puis, à ce moment-là, je suis déménagé à Verdun. Là, c'est ma sœur qui demeurait dans ce secteur-là, qui m'a dit, viens-t'en à Verdun, il y a tout ce qu'il faut, t'as tout à portée de la main, et c'est vrai. J'ai adoré ce secteur-là. Et puis, j'étais là 3 ans. Puis, pour ce qui est de la massothérapie, ben moi, ce que j'ai fait, j'avais fait paraître une annonce dans le journal Le Messager, le journal local du secteur. Et je pouvais être en mesure d'en faire chez moi, à domicile. J'ai distribué des cartes un peu partout. Je me suis promené sur la rue Wellington, la rue Verdun. J'ai fait le tour. Et puis, ça a bien été pendant 3 ans. Et ensuite, en 2008, il y a une crise économique qui est arrivée.
Quand même, oui.
Et là, ça a tombé.
OK.
Ça a droppé.
Les gens y ont coupé dans le massage. Là.
Oui, il y a ça. Et non seulement ça, dans mon cas, là.
Oui.
Et puis, non seulement ça, mais là, le coût de la vie... Le loyer montait, et là, j'avais de la misère à arriver. Donc, à un moment donné, quand j'ai eu ça, là, ben, j'ai été obligé de déménager de Verdun pour revenir à Longueuil. Et ça m'a fait de quoi, mais j'avais pas le choix. Tu sais, quand t'as de la misère à joindre les deux bouts, là.
Ouais, il faut trouver des solutions.
Exactement. Mm-hmm. Et quand l'appartement que j'ai pris était plus petit, j'avais pas vraiment de place pour pouvoir
recevoir
en
la
faire
clientèle.
Chez moi. Mm-hmm. Et puis, c'était sur Valentérien à ce moment-là. Je suis revenu à peu près dans le même secteur, au coin de Fréchette et Valentérien. J'étais là 2 ans. Et puis, ça faisait un temps que je pensais à tenter de me trouver un loyer à prix modique. J'ai fait une demande, j'étais bien chanceux. Je l'ai obtenu, là, en peu de temps.
Sans que ça prenne, là, des années et des années, là.
Ben, à Verdun, je m'étais essayé. Et puis, finalement, ça n'avait pas marché. La liste d'attente était trop longue. En 2010, mes parents, ma soeur, tu viens de souper chez moi. Puis ma soeur m'a dit, tu devrais te réessayer. pour faire une demande. Donc, on est en octobre, là, je fais ma demande, je vais voir mon neurologue, représentante, c'est-à-dire au centre Nazareth-Loubraille. Je vais voir mon médecin de famille, je fais faire des papiers, je remplis tout ce qu'il faut, j'envoie ça à l'Office municipal d'habitation. Et j'ai un rendez-vous en janvier 2010. Et puis là, on me donne toutes les critères. Là, je marque tous les critères. Moi, là où je veux aller, les quartiers que je préfère. Et puis, je mets tout ça, les chances de mon bord. Fait que finalement, elle me dit, le minimum de temps que ça peut prendre avant que tu aies un appartement, ça peut être environ 4 mois.
Ah.
3 mois minimum.
OK.
Sinon, ça peut aller jusqu'à 5 ans.
Ouais.
On est à mi-janvier. Au mois de mars, je reçois un téléphone. Représentante de l'OMH, comme quoi que j'avais, il y avait un logement pour moi.
Hey!
Là où qu'on se trouve ici.
OK, en plus, OK.
Et oui, j'en revenais carrément pas. Tu sais, c'était quand même assez incroyable.
Ben, des fois, on s'attend vraiment à ce que...
À ce que ce soit plus long. Moi, ben, je m'étais pas fixé d'attente, là. Fait que là, finalement, je suis déménagé ici exactement là, en juillet 2010. Là, ça fait 10 ans que je suis ici, là.
10 ans à la même place.
Oui, je me considère chanceux. Je vais te le dire, là, dans la situation actuelle dans laquelle on se trouve, les loyers qui ont augmenté un peu partout, non seulement ça, avec la COVID-19, c'est pas évident. L'ouvrage est pas mal plus rare. Fait que le fait que j'ai un loyer qui n'est pas trop dispendieux, j'ai un peu de lousse, je peux avoir la chance de... Tu sais, j'ai un peu de lousse financièrement, déjà la chance de respirer un peu. Je manque pas de rien, et puis au moins là, je suis bien.
T'sais. C'est ça, parce que d'être bien dans son loyer à la base, là, c'est ouais, très important.
Tu manques pas de bouffe, tu manques pas de linge, de tout ce qu'il te faut là, quand même. C'est un beau quartier ici, on est bien organisé. Et puis pas trop loin du Vieux-Longueuil, pas loin du métro Longueuil. Et puis, il y a une belle piste cyclable pour aller se promener, pour aller marcher. J'adore aller marcher. Je peux marcher pendant des heures. C'est une bonne façon de se ressourcer. Et puis...
De se tenir en forme.
Ah, mais ça... Oh, oui, oui, mais c'est de la marche rapide.
Oui, rapide.
Ah, oui, oui, il faut que ça... Oui, oui, moi, c'est de la marche rapide. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, là, mais j'aimais beaucoup le vélo, vélo tandem. Ça fait des lunes que je n'ai pas fait pour être bien honnête avec toi, là. Et puis, c'est un petit peu ça. Là, je dois dire que, au niveau de l'implication pour Mira, je me suis beaucoup impliqué pendant des années. Et puis, ça a été le cas pour bien des gens, jusqu'à il y a environ là, 6 mois.
OK.
Évidemment, depuis que la COVID est arrivée, ben, tout a chamboulé. Ça, c'est partout, là, pour tous les organismes,
c'est
toutes
sûr,
les fondations,
ben oui,
là,
mm-hmm,
c'est partout. C'est très, 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 très dur.
C'est plus difficile aussi de se trouver, j'imagine. Ben,
de l'ouvrage en général.
Mais de là, l'ouvrage, toi, mais des occupations.
Oui. Ah ouais, ouais, les occupations aussi, c'est parce qu'on est un peu restreint, ça c'est sûr.
C'est ça, hein. Les contacts sont limités, les sorties.
Ça, pour ce qui est des contacts physiques, oui, c'est plus limité, ça c'est un fait. Mais dans l'ensemble, là. Ah, écoute, là, je te cache pas que je sors moins depuis le, évidemment, depuis le confinement, là, j'ai moins sorti. Heureusement, on a recommencé à sortir un peu, mais c'est plus limité. Au début, ça me stressait. Tu sais, quand on parle de la distanciation physique, pour moi, c'est physique, beaucoup plus que social.
Uh-huh.
Quand j'allais marcher, des gens qui pouvaient passer très proche de moi, ça me stressait un peu. Bon, je vais essayer de prendre ça... le plus relax possible, là, ça donne rien. Mais au moins, non, ça va quand même mieux. Prends ça comme ça vient, c'est la meilleure chose à faire. Avoir un bon moral et d'être positif. C'est
ouais, c'est ce qui est le mieux. Le moral, qui est bon moral, ça aide pour la suite des choses.
Oui, c'est en plein ça.
Au téléphone, la semaine passée, tu m'as parlé de quelqu'un d'assez important quand même, parce que on se questionnait tout à l'heure sur l'année où Nazareth-Loubraille a changé de nom Et ça, bon, je m'en rappelle vaguement parce que j'étais là quand même. Et je me souviens qu'on avait sélectionné des choix de noms. Et il y avait dans les choix Jacques Ouellette, hein, c'est le nom que l'école porte maintenant. Et toi, tu l'as connu quand même, Jacques Ouellette.
Je l'ai connu, je l'ai pas connu beaucoup, mais quand même, on a eu le bonheur de le rencontrer quand j'étais au primaire. Ça arrivait parfois qu'il pouvait nous inviter à son local, à sa classe, là, où il amenait de son matériel, parce qu'il enseignait la géographie. Il faut le dire, là, Pierre, le père Ouellette, c'était un clerc salviateur, un prêtre, il était là depuis 1959. Et depuis l'année où l'Institut Louis Braille, parce qu'il y avait Nazareth et il y avait Louis Braille, comme je t'ai parlé plus tôt.
Oui.
Louis Braille est déménagé sous Beauregard en 58, je crois, si je ne me trompe pas. Parce qu'avant ça, Louis Braille était à Westmount, de 53 à 58. Et puis, le père Ouellette est arrivé cette année-là. Il a enseigné la géographie et l'histoire. Et c'était un bourreau de travail. Un excellent enseignant hors pair, qui savait très bien comment vulgariser la matière. Et puis, il abordait avec les étudiants, surtout en fin de secondaire, là, l'actualité, tout ce qui se passait et pourquoi tel événement pouvait se produire, qu'est-ce qui causait ça. Il était passionnant. Mais il était extraordinaire. Il imposait le respect de façon positive, soi-disant, là, et la discipline. Il fallait le vouvoyer. On n'était pas habitué. Moi, le premier, quand je l'ai eu, seulement 3 semaines. J'explique, là, en 79, secondaire 1, on l'avait en géographie. Et puis, moi, on était fasciné par toutes les cartes, tout ce qui est le globe terrestre, les cartes, le système solaire qu'il avait reconstitué, les cartes en braille.
C'est ça, tout le matériel adapté.
Le matériel qu'il avait fait, qu'il avait tout adapté pour nous autres. Il pouvait passer des heures et des heures, des soirées, il pouvait travailler, là, à son local, là, jusqu'à vers les 10, 11 heures, minuit, parfois jusqu'à 1 heure du matin. Il ne comptait pas les heures. Et puis, fait que là, c'est ça. On l'a eu, malheureusement, 3 semaines. Et puis là, on a appris qu'il était atteint d'un infarctus. Et puis, il a été hospitalisé 2 semaines, pendant 2 semaines. Et puis, finalement, c'est là qu'il est décédé d'une crise de cœur. Il avait 51 ans.
Très jeune, quand même.
Oui, ah oui, oui, oui. Bon, ça, vraiment, là, on était vraiment pris par surprise. On s'attendait tellement pas à ça. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que le centre de réadaptation AMEO, je sais pas si tu as déjà entendu parler
de ça.
Oui,
oui, bien sûr.
Bon, ben, eux autres, ils ont commencé à opérer à Montréal. Il y avait leur locaux à Montréal, leur studio. Et puis, il y avait un local unique en 77, et puis là, ils ont ajouté un autre local. En 79, ils ont tous déménagé leurs locaux sur le dernier étage de l'Institut. Je parle pas d'en haut complètement, là, où ce qui était... Là,
pas où ce qu'il y avait le troisième étage, non, là, mais au deuxième étage.
Mais au deuxième étage, là, il était sur un côté de l'étage, et puis c'était en 79. Et le père Ouellette avait sa classe sur ce côté-là. Et okay. Ils ont déménagé, puis il y avait une belle grande classe, là, où il y avait reconstitué le système solaire, comme je te disais, mais il y avait des étoiles suspendues. C'était vraiment très, très bien, là. Ça a été un gros choc. Il nous en avait parlé, il était bien peiné d'avoir perdu ce grand local-là. Puis il était restreint à un local beaucoup plus petit. Ça l'avait affecté. Beaucoup, beaucoup. Puis il y en avait d'autres de ses collègues qui nous en avaient parlé de ça.
Quand même, hein, un monsieur qui aimait vous faire apprendre, qui aimait concevoir du matériel, c'est
d'une grande... était passionné par son travail. Pour lui, c'était du bonheur que d'enseigner aux élèves, de faire partager ses connaissances. Ça, là, il était toujours prêt aussi à aider si jamais quelqu'un était en difficulté. Je parle ici, là, au niveau, pas juste les matières, là, mais un problème. Il me disait, venez me voir, je vais toujours être là pour vous écouter.
Hey, c'est,
tout le temps.
C'est
toujours,
génial.
Toujours. Ça, là, je vais toujours me rappeler de ça.
Et là, si on fait un lien entre géographie, tout ça, tu as mentionné tantôt que tu aimais, ben, en tout cas, que tu avais le goût de voyager, puis que tu aimais le voyage, puis tout ça. Et j'ai su, là, entre les branches, que tu as voyagé quand même, puis pas n'importe où, là, non plus.
En fait, c'est que ce soir-là, on a sexé tantôt, Hélène, pendant la pause, tu as parlé d'un voyage que j'avais fait au Japon. C'est en 80. En fait, mon père a eu, comme je te mentionnais, à l'origine de son métier, d'origine, était opticien. Il avait son propre commerce. Et puis, il a été dans ce domaine-là pendant 11 ans, de 65 à 76. Il a vendu ses parts à mon oncle, qui était son associé. Et puis, à ce moment-là, il a décidé de se partir à un centre de loisirs, de patins à roulettes. Le patin à roulettes était très à la mode dans ce moment-là. Et il s'est dit, tiens, ben, on va en ouvrir un à Repentigny. C'est puis bien situé pour les gens de l'est de la ville de Montréal, pour les gens de la région de Joliette. Vraiment, là, pour ils pouvaient couvrir un grand, grand territoire. Et puis, ça a marché. Ça a marché très fort. Tellement fort que là, après ça, Nouveau-Réno. On a eu 6 centres. Il y en avait un à Québec. Ça a été le deuxième centre qu'on a eu. D'ailleurs, on était les premiers à s'implanter à Québec au niveau du patin roulette. Et puis, c'était vraiment des centres d'amusement. Là. Il y avait là-dedans machine à boules, les tables de poule, resto. Vraiment, là, on avait tout ce qu'il fallait pour s'amuser puis avoir du plaisir.
OK, assez varié, là.
Ah oui. C'était toujours plein. On a ouvert en 77. Ça a été une grosse mode, ça, je te dirais, là, jusqu'en 81. À peu près. 81-82, là. Et puis, disons que, tu sais... chaque mode, à un moment donné, ça l'a une fin. Hein? Parce que c'était en 80 qu'on est allé au Japon. Les Japonais là, ont approché mon père pour implanter le patin roulette là-bas. On est parti à Osaka. C'est là qu'on est allé ouvrir le centre en question. Et puis, on était là 3 semaines. J'ai eu la chance de... On est allé visiter, entre autres, les temples bouddhistes de Kyoto. On est allé à un endroit où ils font l'élevage des bœufs à Kobe. Tu sais, le bœuf, le...
Oui.
Ce qui est renommé pour le steak qu'on mange et qui se coupe avec la fourchette tellement tendre. Ils font dans... C'est plus tendre que du filet mignon. Faut te dire, là.
Ouais, faut le faire.
Ah, ouais, absolument. Alors, c'était un voyage absolument inoubliable. Puis à ce moment-là, puis le fait que là-bas, les personnes handicapées, déjà en 80, là, si on se reporte par rapport à aujourd'hui, déjà, pour les gens là-bas, pour les Japonais, les personnes handicapées étaient perçues au même pied que tout le monde.
OK.
Tu sais, il n'y avait pas de différence. Tout le monde venait me voir, Tu sais, moi, quand j'allais patiner, parce que j'adorais faire du patin roulette, ben là, il y avait plein de filles qui venaient me voir. Les Japonaises, avec leur petite voix, moi, je pensais qu'il y avait à peu près 13 ans, 12, 13, 14. Ben non, il n'y avait pas cet âge-là. Il y avait 18, 19 ans, 20 ans. J'étais toujours en... Puis là, je me bombe pas le torse, là, c'est la réalité. Mais vraiment, là, on a eu beaucoup de plaisir. Vraiment, c'était super. Les karaokés aussi, c'est là que j'ai eu ça, moi. En 80, ça existait là-bas déjà.
Ben oui, puis comme t'aimais chanter, tu chantais?
Oui, on a fait ça. J'en ai profité pour le faire.
Puis là, quand on voit pas puis qu'on fait du karaoké, faut savoir les paroles.
Faut bien les savoir. mais quand tu connais bien une toune là,
oui.
Tu sais, tu la maîtrises très bien. Tu maîtrises non seulement les paroles, mais le rythme au niveau des paroles.
Oui.
Pis je fascinais parce que j'en ai fait beaucoup, surtout du karaoké quand j'étais au Nouveau-Brunswick. Il y avait des concours. Du temps que j'ai vécu au Nouveau-Brunswick, j'avais des concours là-bas, puis j'en ai gagné quelques-uns. Je l'ai gagné 2.
Ah oui?
Oui. Okay. Oui. Et puis, c'était avec des... À ce moment-là, je dois te dire, là, il y a bien des chansons que je chantais, que je faisais, là. En fait, c'est pas compliqué. Je m'adressais à ma blonde. Fait que, écoute, quand elle est décédée par après, j'ai été pendant un bon bout de temps sans chanter, puis même parfois encore, je t'avoue, c'est un peu difficile. Je chante pas les mêmes choses. Tu sais, si tu me demandes qu'est-ce que je chantais, j'adorais chanter des pièces de Barry Manilow. I write the sound, looks like we made it. Il y a aussi America que j'ai toujours bien aimé. Si tu me demandes de la musique, ce que j'aimais faire. Chicago aussi, If You Leave Me Now. Hard Habit to Break. Je sais pas si ça dit quelque chose,
un
là.
Un petit peu, sur, c'est certaine, oui.
Oui. Mm-hmm. Celebration, The Cool and the Gang, ça, c'est un classique. Mm-hmm. Mais ça partout, j'ai toujours du fun à le faire, celle-là. Embarquer les gens, là. Il y avait aussi certains groupes, peut-être un peu moins connus, mais pour ceux qui sont des maniaques de la musique des années 70, Seals and Cross ou England Dance, John Ford Cooley. Seals and Cross, le plus grand classique, je pense, c'est Summer Breeze. Makes me feel fine. Et puis, pour ce qui est d'England Dance, John Ford Cooley, c'est And I'd Really Love to See You Tonight. Ça, là, c'était immanquable. À chaque fois que je le faisais, les gens là adoraient ça. Puis, ça a été leur plus grand succès, qui était très rassembleur. Il y avait du country aussi que je faisais. J'aime bien le country américain aussi.
OK.
Comme il y avait Sammy Kershaw, Love of My Life. Il y avait George Strait à l'époque qui marchait fort. Brooks and Dunn, Garth Brooks aussi que je chantais. Tim McGraw, Kenny Chesney. C'était des artistes qui étaient populaires. Glad Campbell aussi.
Mais quand même très varié comme.
Ah oui. Ah ben écoute, si tu me parles de musique, là, j'en écoute plusieurs sortes, là. Très, très varié. J'adore le jazz. J'aime beaucoup le country. J'aime beaucoup aussi le. Que ce soit la musique pop rock. Si c'est du rock d'aujourd'hui, je vais te dire du rock plus léger, mais j'aime beaucoup le rock progressif. Que ce soit des années 70, 80, 90, au niveau du progressif jusqu'à aujourd'hui, là, ça me va bien, aucun problème. Genre, évidemment, pour ce qui est de la musique populaire en général, j'aime le bon vieux rock québécois, le québécois en général. Mais si tu me demandes les groupes préférés, il y a eu Beau Dommage, Offenbach, Carmonium. C'est ceux-là que j'ai aimé le plus parmi les groupes québécois. Parmi les chanteurs, il y avait les Séguins aussi que j'aimais bien. Dionysos, Contraction, Gilles Valiquette, autre chose avec Michel Francœur, le poète rock. Et puis, il y en a beaucoup. Là, tu sais, puis en plus, ben, ces gens-là, par la suite, là, pour la majorité, ont fait carrière solo, fait que je les ai suivis par après. Puis dans le matériel anglophone, ben, dans le progressif, il y a eu ben, Pink Floyd, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Supertramp. Genesis, ça a été un des groupes que j'ai suivi le plus. Et puis, surtout le Genesis des années 70, de 70 à 77, jusqu'au départ de Steve Hackett. Okay. Et puis, après ça, ben, ça a été le début de l'ère commerciale. Je peux dire que les albums qui ont suivi, là, And Then There Were Three, l'album Duke, c'était pas trop mal, c'était passable. Après ça, là, ça a été la hache qui a été mise dans le matériel. Ça passe. En show, ça allait, mais rien de plus. C'était un autre genre.
Hey, quand même!
J'espère que je t'ai pas trop étourdi avec tout ça.
Ben non, pas du tout.
Tu sais, je t'ai mentionné, là, entre autres, mais tu sais, en plus, je t'ai pas tout dit ce que je pouvais écouter, parce que, évidemment, j'ai grandi aussi dans la musique disco.
Ah oui!
J'en ai écouté, oh oui, certainement, avec les cendres de patins roulettes et tout ça, là, on a grandi là-dedans. J'en ai écouté beaucoup. Si on pense à Donna Summer. Olivia Newton-John, c'était une de mes préférées aussi. Elle, j'aurais donc voulu qu'elle soit ma blonde. La dorlotée, la gâtée. Tu sais, on a tous eu un idole ou quelqu'un qu'on a aimé, là.
Oui.
Ça, c'est officiel. Mais elle, ça a été ma favorite.
Là. Mais là, je pense qu'on aurait pu faire une entrevue de 3 heures. Hein?
On aurait pu. Mais OK, mais je vais arrêter ça là pour tout de suite, puis je vais te laisser parler.
Oui, mais c'est parce que là, tu parlais de j'aurais aimé ça qu'elle soit ma blonde, mais là, la blonde actuelle, est-ce qu'on peut peut-être finir l'entrevue avec, avec
bien
elle?
Bien sûr,
parce que, évidemment, je n'ai pas la prétention de la connaître, mais elle m'a accueilli ici ce soir.
Très chaleureuse, grande gentillesse, très douce, beaucoup d'entre-gens, toujours souriante. C'est très rare que je la vois de mauvaise humeur, franchement, là. Et puis, une grande simplicité aussi. Alors, je l'apprécie beaucoup.
Qui a l'air de ne pas s'en faire avec la vie.
Non. Et puis, je l'adore. C'est vraiment fantastique. Ça va faire 9 ans qu'on est ensemble.
En plus, ça fait déjà...
Le 21 décembre, exactement. On s'est rencontrés en début décembre, ou durant le mois de décembre, en 2011. Je faisais un kiosque pour la Fondation Mira, dans le Vieux-Montréal. Attends, L'édifice Bell, c'est ça.
Ah, OK.
Et à ce moment, dans cette époque-là, dans cette période-là, il y a le Salon des métiers d'art. Elle était venue faire un tour au Salon des métiers d'art, puis elle était venue faire un tour par la suite à notre table. On a jasé, c'était tranquille. Je me rappelle pas exactement de... C'est sur l'édifice Bell, mais c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Il y avait beaucoup de clientèle. C'était vraiment un très bon kiosque. Fait qu'on a... Elle a été restée avec moi pendant au moins un bon 20-25 minutes. Et puis, elle me posait plein de questions. Le temps que j'étais avec... Le temps que j'ai eu les chiens, tout ce qui en découlait, là, tu sais. Fait que... Elle s'en souvient pas, elle m'a acheté 5 jeux de cartes. À ce moment-là, les jeux de cartes étaient à 5$.
OK.
J'en ai retrouvé dans mon auto à un moment donné.
Oui, ça ne s'en rappelait pas, mais elle tiens, je vais t'acheter des jeux de cartes comme ça. Ben, que j'ai vendu 5 jeux de cartes, avant d'en avoir 5. Puis là, elle s'en va, elle quitte. Et puis là, plus tard, je m'en vais à la foire alimentaire. À l'heure du dîner, on se retrouve, on se recroise. Ben, j'ai dit, ça te tente-tu qu'on mange ensemble? Fait qu'elle a accepté avec grand plaisir. Puis là, finalement, elle parle pas de Jean-Jacques. On s'est échangé nos coordonnées. Après, on a eu une bonne demi-heure, bien, bien remplie. Puis là, par la suite, ben, écoute, qu'est-ce que t'en penses? On pouvait s'échanger nos numéros de téléphone. Le reste, s'en est suivi. Et puis, moi, j'avais pas d'ordinateur. Ça a peut-être l'air fou à dire, mais je n'avais pas d'ordinateur vraiment à ce moment-là. Alors, j'étais pas sur l'Internet. Et j'ai un ordinateur depuis 2012. J'ai commencé à utiliser l'Internet à ce moment-là.
Donc, l'Internet, tu me parlais de iPhone aussi. C'est un...
Depuis 2016.
OK.
Janvier 2016.
Donc, la technologie, ça fait pas peur?
Non, ça va bien. Je m'amuse avec ça, je pourrais pas m'en passer.
Et là, je veux faire une espèce de boucle parce que... On a parlé de Mira quand même assez tôt dans l'entrevue.
Ouais.
Il y a encore un chien actuellement. Y a-tu eu des chiens tout le temps?
Oui. Depuis Mélèze, c'est mon 7e chien. Il va bientôt aller à la retraite. Déjà, il est rendu à l'âge de 8 ans. Il a eu 8 ans au mois de mai, et puis le 23 exactement. Ben, il a commencé à développer certaines craintes. Et puis, il commence à être un peu plus anxieux. Je peux pas le laisser tout seul non plus. Puis juste pour te dire, quand on est allé là, chez Hélène, là, dans le Nord, parce que elle a son logis, puis j'ai le mien. Et puis, c'est merveilleux comme ça. On est toujours, tu sais, parfois, elle s'en va chez elle ou vice-versa. Bon, toujours content de se revoir après.
C'est ça, ben oui.
Ça fait que là, ben, quand on est revenu ici, elle avait beaucoup de bagages à monter. Fait que je suis venu conduire mon chien. Le temps que ça a pris pour monter tout le restant des bagages, tout d'un coup, je l'entends pleurer. Il faisait jamais ça d'habitude. Mais tu sais, ça, c'est quelques détails. Tu sais, si c'est pas ça, c'est le fait qu'il se fatigue beaucoup plus vite. Et puis, tu sais, il n'a pas la capacité qu'il pouvait avoir pour guider comparativement à avant. Fait que veux, veux pas, OK, je l'aime. Je l'adore, mon chien. Je pourrais bien dire, je vais le garder, mais tu sais, je l'aime sereinement dans le sens que, tu sais, je veux qu'il ait la chance de bénéficier d'une belle retraite. Et je sais, parce que là, j'ai rencontré celle qui l'a élevé comme famille d'accueil. Elle l'a vu, j'ai eu la chance d'aller chez elle à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois. Elle l'a gardé, même je suis allé en voyage dans le sud avec ma famille, et puis elle l'a gardé pendant 15 jours. Ça fait que, non, c'était entendu, on a pris entente qu'on croit qu'elle le reprenait pour sa retraite.
Pour la retraite.
Oui, c'est okay. Ça. Fait que, disons que là, je lui donne des nouvelles régulièrement. Parce que dernièrement, je suis allé voir le vétérinaire, parce que là, Mélèze avait un certain problème. Je remarquais qu'il engraissait beaucoup. Et puis, en plus, il se fatiguait rapidement. Mais le fait, c'est que c'est sa glande thyroïde qui était un des problèmes.
OK.
Fait qu'il est sur médication par rapport à ça. Il a perdu du poids. Bonne nouvelle. Un petit problème, par contre, au niveau de sa colonne vertébrale, elle a remarqué ça. Il avait le souffle plus court. Il haletait, tu sais, assez facilement. Ouais. Je pensais qu'il avait chaud. À un moment donné, tu te rends compte que c'est pas nécessairement ça. Donc, il a fallu qu'on aille à la clinique. Mon vétérinaire, très chanceux, je l'ai rejoint sur son cellulaire un samedi matin. Ben, il dit, viens me voir tout de suite. Et puis, c'est là qu'on a découvert que c'était au niveau des vertèbres L4, L5 qu'il y avait un petit problème. Fait que les antidouleurs de prescrit, et puis ça s'est replacé. Ça va quand même beaucoup mieux pour ça. Mais là, je suis en contact avec la Fondation. Là, je vais avoir des nouvelles d'eux bientôt, d'ici la mi-septembre à peu près. sans voir ce qui va se passer. Ça fait que je profite au maximum du temps que je peux avoir avec Mélèze. Il
c'est
va retourner
sûr.
Dans sa maison d'origine vers le mois d'octobre environ. On va voir, là. On se l'étend à aller, puis on va voir après.
Mais quand même incroyable que tout le long, tu as eu des chiens, donc ça a été des belles histoires, j'imagine.
Oui. Je peux dire que quand tu changes de chien, évidemment, c'est jamais facile. C'est toujours déchirant. Surtout quand c'est le premier chien que tu as, c'est là que c'est plus tough. Mais tu dois t'adapter, ça là, c'est sûr et certain.
Ouais, c'est plate à dire ce que je vais dire, mais c'est sûr que ça fait partie de la vie. On le sait qu'on l'aura pas toute la vie.
C'est ça. Puis moi, je veux pas le voir souffrir. C'est que si j'arrive là, puis là, sa santé est trop chancelante, là,
non, ça c'est difficile.
Ça n'a pas de sens, là.
Mais je pense qu'en tout cas, ça a été très agréable. Comme je dis, on aurait pu faire beaucoup plus long.
Mais on a... Tu te reprendras une autre fois,
Oui.
Si jamais tu as d'autres choses ou que tu as d'autres questions.
Ben oui.
Surplus, tu reviendras.
Sans problème, parce que, en plus, c'est que on s'est rencontrés pour la première fois. Moi, j'aime toujours ça, rencontrer des nouvelles personnes. Le but du projet, c'est pas juste de faire connaître les gens à d'autres, là, mais c'est de moi aussi en connaître d'autres. Ça fait que.
Oui, bien sûr.
Je commence par moi-même, hein. Ça fait que.
Ciel.
Mais merci beaucoup. Merci infiniment.
Ben, je suis content de voir que tu as un emploi, une bonne position point par point. Je suis vraiment content pour toi parce que, tu sais, aujourd'hui, là, avoir un emploi stable, c'est pas toujours évident. Puis pour une personne aveugle ou une personne handicapée, je veux dire en général, encore moins.
Moins de chance que ça.
Je suis vraiment content pour toi. Moi, quand quelqu'un réussit bien sa vie, moi, je suis toujours heureux pour cette personne-là.
Ben merci.
C'est très important.
Puis moi, ben quand je rencontre des personnes positives puis qui expliquent les choses de façon positive aussi, ça.
C'est encore mieux.
Ça alimente mon projet. Alors bien, un gros merci encore une fois.
Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, une autre émission de Connaissez-vous de terminer. J'espère que ça vous a plu. Hein? Encore une fois, cette semaine, on a appris plein de choses avec notre invité. Vous avez remarqué aussi que, bon, c'est une nouvelle saison, tout début. Deuxième émission, je vous parle en fin d'émission aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière parce que je voulais vous laisser entendre le nouveau format, si on peut dire, de l'émission de cette saison avec nos nouveaux collaborateurs, collaboratrices. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler. Je ne vais pas le faire nécessairement à chaque semaine, mais cette semaine, je considérais que c'était une bonne chose que je le fasse. Bien, premièrement, pour vous re-souhaiter la bienvenue à une nouvelle saison. Une nouvelle saison que on vit un peu sous le signe de l'incertitude en raison de la pandémie qu'on a vécu à partir du mois de mars dernier et qu'on ne sait pas si c'est terminé et si on va y retourner. Et pour l'instant, c'est possible de faire des entrevues. On regarde la distanciation sociale. J'ai des nouveaux micros cette année qui font en sorte qu'on peut avoir une distanciation sociale. C'est un nouveau système de micro, donc ça va demander certainement quelques ajustements. Je vous demanderai d'être un peu indulgent pour les premières semaines. On va sûrement avoir des ajustements à faire. Ensuite de ça, on a une nouvelle équipe maintenant qui travaille sur Connaissez-vous. Il y a Frédéric Gauthier qui s'occupe du montage des émissions. On a Stéphanie Carrasco qui s'occupe de la mise en ligne des émissions. Et on a Katia Darèche qui est notre nouvelle voix, notre nouvelle présentatrice. Donc, on a un petit peu d'ajustement à faire toute l'équipe. Et Stéphane Pilon va demeurer présent dans l'équipe dans le sens où il va pouvoir être une personne ressource et une personne aussi de dépannage en cas de problème. Donc, je l'en remercie. Je lui remercie aussi de tout le temps qu'il a consacré à Connaissez-vous pour les 126 premières émissions. Et aussi, une autre chose dont je voulais vous dire, j'ai hésité à commencer la saison en septembre. J'ai pensé la commencer en janvier. J'ai pensé aussi la commencer en octobre. Mais je me suis dit que, bon, valait peut-être mieux réaliser et diffuser des entrevues pendant que c'était possible. Et je voulais aussi vous dire qu'on va peut-être être beaucoup plus près de l'actualité dans le sens où il n'y a pas eu d'entrevue enregistrée très longtemps à l'avance là, en ce moment. Au moment où on vous parle, là, les entrevues ont été enregistrées là, maximum 10 jours avant leur mise en ligne. Et ça fait en sorte que j'ai pas beaucoup d'avance et j'ai beaucoup moins de personnes aussi à interroger parce qu'après 126 émissions, disons que il y a un grand tour de piste qui est fait. Mais c'est pour ça aussi que je vais vous demander là si vous voulez participer à l'émission de vous manifester et de me proposer des dates. Moi, je peux enregistrer là, à peu près n'importe quel jour de la semaine, dans la semaine du lundi au vendredi, je vous dirais plus de soir, ou fin d'après-midi ou soirée. Puis la fin de semaine, il y a moyen de s'organiser. Je peux aussi me déplacer là où le transport en commun / adapté se rend. Et si vous voulez vous déplacer, les enregistrements se font à Longueuil, près du cégep Édouard-Montpetit, ou sinon, il y a moyen de faire des entrevues, bien sûr, ben, de chez vous aussi, ou dans Point par Point incorporé, et éventuellement à l'Association des aveugles de la Rive-Sud au 1255 Beauregard. Ça, je vous dis éventuellement parce que pour le moment, je n'ai pas eu le OK que nous pouvions y retourner. Donc, ça se peut, et je dis bien, ça se peut qu'on fasse moins d'émissions cette année que par les autres saisons. On en faisait 36. Et ça se peut aussi qu'il y ait des semaines qu'il n'y en ait pas. Et c'est pour ça que je n'annoncerai plus les émissions, les invités dans les émissions. Donc, si vous voulez être à l'affût des invités à venir puis des dates des émissions, ce sera bien si vous en êtes capable de vous inscrire à notre infolettre et nous suivre sur Facebook, sur différents réseaux sociaux. Ensuite de ça, une autre très grande nouvelle, c'est que nos entrevues sont maintenant disponibles sur plusieurs plateformes. Entre autres sur iTunes, donc avec votre téléphone intelligent. Je parle beaucoup des iPhones parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de non-voyants qui ont des iPhones. C'est possible de rechercher Martin Chouinard, Connaissez-vous, et de retrouver les 126 épisodes qui ont été faites entre 2017 et 2020. Et les émissions de cette saison-ci seront mises à mesure sur ces plateformes. Et le fait de mettre les émissions sur ces plateformes-là, ça fait en sorte que si vous cherchez à partir de votre Victor dans la section podcast, ben toutes les émissions de Connaissez-vous vont vous apparaître, donc vous êtes disponible à partir du Victor, et ça faisait longtemps qu'on me le demandait. Donc, je pense que pour cette semaine, ça va être tout, et comme je vous le disais, ça va être une possibilité que de temps en temps, je vous parle à la fin des émissions comme aujourd'hui, Et quand il y aura des annonces à faire, comme je vous dis, on va être plus près de l'actualité. Donc, quand il y aura des activités qui reprendront, quand il y aura des choses à signaler, je vais en profiter pour vous les signaler à ce moment-là. Donc, je vous laisse là-dessus pour cette semaine, mais le point important, si vous voulez participer à Connaissez-vous, que vous êtes sur la rive sud ou à Montréal, à proximité quand même, ou si vous êtes dans d'autres régions et que vous savez que vous allez passer dans le coin, bien, ça me fera plaisir qu'on s'organise pour se rencontrer à ce moment-là. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.
Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!